Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je vous retrouve donc ce soir effectivement pour la première fois depuis notre nouvelle adresse à Paris dans le 15e. Je peux vous dire que le studio est flambant neuf, magnifique et qu'on va être bien ici pour vous accueillir chaque soir sur cette libre antenne. Le numéro de téléphone pour nous joindre reste le même, rassurez-vous, c'est le 3921. Dans nos cartons, on a ramené Amandine et Hassan qui sont donc fin prêts à recevoir vos appels. Pour les SMS, vous faites toujours le 739-21 en commençant par le mot nuit. Si j'ai appris quelque chose de la vie, c'est que parfois, les moments les plus sombres peuvent nous mener aux endroits les plus lumineux. Si j'ai appris quelque chose de la vie, c'est que parfois, les moments les plus sombres de la vie peuvent nous mener à des endroits inattendus. J'ai appris que les personnes les plus toxiques peuvent nous apprendre les leçons les plus importantes, que nos luttes les plus douloureuses peuvent nous donner le plus grand des apprentissages et que les pertes d'amitié et d'amour les plus déchirantes peuvent faire place à des plus merveilleuses rencontres. J'ai appris que ce qui semble être une malédiction dans l'instant peut être en réalité une bénédiction. Et que ce qui semble être la fin du chemin est en réalité la découverte, que nous sommes censés emprunter un autre chemin. J'ai appris que même si les choses semblaient difficiles, il y a toujours de l'espoir. Et j'ai appris que même si nous nous sentons impuissants et que les choses semblent horribles, nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons continuer, même lorsque ça fait peur, même lorsque toutes nos forces semblent épuisées, nous devons continuer à nous relever et aller de l'avant, car quoi que nous combattions dans l'instant, cela passera. Nous passerons au travers et nous réussirons. Nous avons toujours réussi jusque-là, nous pourrons survivre à tout ce qui vient ensuite. Et ce texte est signé Daniel Köpke. Et pour survivre à tout, vous savez qu'ensemble on est plus fort, alors venez. Venez me parler de vous, de votre vie ce soir au 39-21. À la réalisation, lui aussi, on l'a ramené dans nos cartons, c'est Fabrice Fougeroux. Fabrice Fougeroux, Jean Bafouille et la libre antenne depuis Paris 15e. Ça commence maintenant.
23h, 1h. La libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et celle qui va ouvrir cette libre antenne dans un instant, c'est Muriel, qui semble avoir des relations compliquées avec son ex-mari. On en parle avec elle tout de suite. Bonsoir Muriel.
Muriel. Oui, je suis trop contente de vous parler.
Vous vous rendez compte ?
Je me trouve trop trop bien avec Sophie. Et c'est un rendez-vous important, la libre antenne. J'attends avec impatience ce moment.
C'est gentil Muriel. Est-ce que vous vous rendez compte que vous inaugurez notre nouveau studio ? Vous êtes la toute première ?
Oui, oui, j'entends ça, oui.
Ça sera un joli souvenir. Alors dites-moi, bon, de quoi est-ce que vous avez envie de me parler ce soir ?
De mon ex-mari. Alors voilà, je commence par quoi ?
Par le début.
Par le début.
Racontez-moi d'abord pourquoi vous êtes séparés, depuis quand et quelles sont vos relations peut-être ?
Alors, j'ai 51 ans, je suis schizophrène et j'ai été détectée à 33 ans. J'ai pas été toujours soignée, je prenais pas mon traitement, alors j'avais des bouffées délirantes, des hallucinations.
Pourquoi vous prenez pas ?
Parce que ça me faisait grossir, ça m'a fait prendre 30 kilos. Et quand je l'arrête, enfin je l'arrête plus là maintenant parce que j'ai compris ma dernière hospitalisation, mais c'est pour ça que je ne le prenais pas.
Ouais. Mais quand vous le prenez, vous êtes stable ?
Oui, oui, tout à fait.
Donc ça c'est plutôt bien.
Ah oui, oui, je suis stabilisée depuis 2011.
D'accord.
Donc quand j'ai rencontré mon mari, j'étais pas vraiment soignée, je prenais mes cachets, je les arrêtais. Et il a 8 ans de moins que moi. Et il est d'origine algérienne. Et bon, on s'est mariés. Et notre mariage. Alors, je m'alcoolisais déjà, pour vous dire, ce qui était avec la maladie, l'alcool. On a essayé de faire un bébé et je suis stérile. Et je suis allée jusqu'au. au début des soins pour la fille, mais lui, il voulait pas, comme il est musulman, il voulait pas faire don, donner son sperme. Mm-hmm. Alors bon, on a arrêté là, et puis on a divorcé en 2011. En 2011, ça a été une année très difficile parce que j'ai été hospitalisée à l'HP, j'ai perdu mon papa et j'ai divorcé.
Ah oui.
Donc une année assez compliquée. Et depuis qu'on a divorcé, on est resté toujours en contact. Il vient me voir 2-3 fois par semaine, il s'occupe de moi. On s'appelle 3-4 fois par jour. Moi, je l'appelle, dès que j'ai envie de l'appeler, je l'appelle. Et je tiens toujours à lui. Mais l'année dernière, il est parti en Algérie pour 15 jours de vacances. Et sa mère lui a trouvé une femme avec qui se marier. Vous savez, les mariages arrangés.
Oui, mais il n'a pas eu son mot à dire là-dessus.
Ah non, il veut faire plaisir à ses parents. Mmh. Et comme il a 43 ans, Ahmed, il voudrait absolument un enfant. C'est son vœu le plus cher. Et il mérite d'être heureux. Et je crois qu'il n'a pas le mot à dire, son mot à dire par rapport à ses parents. Il est trop...
soumis ?
Oui, il est trop soumis, Ahmed. Mmh.
Et donc là, il rentre en Algérie, sa mère lui trouve une femme, donc, d'après ce que vous me dites.
Oui.
Et comment vous savez ça, d'ailleurs ?
Eh bien, parce que quand il est revenu de vacances, il me dit, voilà, j'ai rencontré, ça doit être les fiançailles chez eux, il me dit, je me suis promis à une femme. Et ils sont restés en contact par téléphone, et au fil du temps... leur relation s'est éteinte. Un jour, il me dit, je me marie plus avec elle. Je dis, pourquoi ? Je cherche un... Il me dit rien, il m'explique pas. Et puis, bon, l'année est passée comme ça, quoi. On continuait à se voir, à se téléphoner. Et depuis fin septembre, il est parti en Algérie. Alors, je pense qu'il était en fin de mission, parce qu'Ahmed est intérimaire depuis des années et des années. Et donc, quand il arrête de travailler, il peut se permettre d'arrêter et de partir quand il arrive en fin de mission. Mmh. Il est parti fin septembre sans me prévenir. Et depuis, j'ai aucune nouvelle, alors que c'est pas du tout son genre. Ça fait plus de 2 mois que je suis sans nouvelles de lui. Et je me sens vraiment très triste et perdue et seule et abandonnée.
Alors, quand vous dites sans nouvelles, Muriel, quels étaient vos moyens de contact ? C'était quoi ? Mail, téléphone, texto ?
Alors, quand il partait en Algérie, il m'appelait au moins. Il m'appelait, il me laissait un numéro et je pouvais l'appeler.
Oui. Est-ce que vous ne croyez pas que ses parents sont intervenus là-dedans ?
Ah, c'est fort possible. Oui, c'est fort possible. Sa famille... Oui, c'est fort possible parce que il a un neveu qui est colonel d'une brigade de pompiers en Algérie, à côté de chez lui, de Tlemcen. Et ce neveu, je le connais par Facebook. Et récemment, je me suis mise en contact avec lui sur Facebook. Et je lui dis, coucou, tu vas bien ? Et ta femme et ta famille ? Alors, il me répond, oui, ça va très bien, Muriel, je te remercie, et toi et ta famille. Alors, de là, je lui dis, écoute, tu pourrais dire à ton oncle, Ahmed, qui me téléphone de toute urgence. Alors là, silence radio. Plus de réponse.
Oui, ça veut dire qu'il est au courant. Ben, il me semble.
Oui, tout à fait, absolument.
Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il lui est rien arrivé.
Non, il ne lui est rien arrivé, j'en suis sûre.
Donc c'est volontaire.
Oui, c'est volontaire.
Ou imposé, mais en tout cas...
Il est deux, quoi, ouais. Mais c'est volontaire, parce que c'est un grand garçon, il peut aller en ville tout seul et me téléphoner.
Il y a plusieurs choses que j'aimerais éclaircir avec vous, Muriel.
Oui.
C'est surprenant quand même, vous divorcez d'avec un homme et vous avez l'air d'être de rester quand même très très proche. Alors pourquoi est-ce que vous avez divorcé? Est-ce que c'est cette histoire d'enfant qui a été le déclencheur du divorce?
Cette histoire d'enfant, oui, ça a été le déclencheur. Et puis j'étais en pleine bouffée délirante, j'étais en pleine... je faisais une fixation sur un autre homme. Et en fait, j'en avais rien à faire de cet autre homme. J'aimais mon mari, mais moi, j'ai pris ce prétexte-là parce que je croyais que Ahmed allait vouloir divorcer du fait que je ne pouvais pas lui donner le bébé.
Mmh. Et de fait, c'est ce qui s'est passé ou pas? Pourquoi est-ce que lui a voulu divorcer?
C'est moi qui ai voulu. Et puis, finalement, on a divorcé à l'amiable. Finalement, je lui ai dit, bon, on divorce, et puis voilà, quoi. Il n'a pas cherché à discuter, on a divorcé.
C'est curieux, parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que vous avez divorcé, mais que finalement, les sentiments et les liens n'ont pas vraiment changé après, quoi.
Absolument.
Parce que c'est quand même assez rare de divorcer, d'appeler son ex-mari jusqu'à trois fois par jour.
Donc il y a une
complicité qui était là, il y a une tendresse, il y a des liens qui étaient là.
Ouais, tout à fait.
Et quand je vous entends, j'ai l'impression que vous étiez en tout cas un peu maternelle avec lui, un peu protectrice, non ?
Oui, protectrice, oui.
Maintenant, il y a autre chose dans votre histoire, il y a beaucoup de deuils qui sont à faire et je ne suis pas sûre qu'ils aient été faits. Vous avez dû faire le deuil de votre bonne santé, le deuil de cet enfant qui ne viendra pas, le deuil de votre mariage, ça fait beaucoup. Comment est-ce que vous allez, vous, Muriel, de ce côté-là ?
Et le deuil de mon papa.
Et oui, pardon, j'avais bien sûr le deuil de votre papa en plus. En peu de temps, ça fait beaucoup de deuil. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous vous êtes fait aider?
Je vois mon psy. J'ai changé de psy deux fois l'année dernière. Mmh. Celui que je vois actuellement, je vois tous les 3 mois.
Pourquoi, aussi peu?
Parce qu'il est chef de service de l'unité psychiatrique à Poissy.
Et ça veut dire quoi? Il n'a pas assez de temps, c'est ça?
Il n'a pas assez de temps au CMP. Ils sont en manque de cruels de psychiatres. Et si je veux, je peux voir mon infirmière référente. Mais j'éprouve pas le besoin d'aller parler avec quelqu'un. Je préfère prendre une feuille et poser ce que je pense sur une feuille.
Oui, c'est vrai c'est une... Oui. Sophie vous a conseillé ça?
Non, moi je ne l'ai pas eu au téléphone, mais je l'ai déjà entendu dire ça.
Oui, mais je dis la même chose, je suis tout à fait d'accord avec ça du moment que ça sort. Si vous voulez bien Muriel, on fait une toute petite pause et on parle après de toute cette manière-là d'avancer, de quoi qu'il arrive, d'accord?
Très bien.
Merci à vous, à tout de suite.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Muriel, vous êtes là?
Oui.
Oui, vous me disiez donc que pour avancer, pour trouver un peu de réconfort, vous écrivez?
Oui.
À quel rythme et qu'est-ce que vous écrivez, par exemple?
Je pose les soucis que j'ai, je les pose sur une feuille de papier. Ça m'arrive peut-être une fois par semaine, ou c'est pas fréquent, ça m'arrive quand c'est trop lourd.
Oui,
je dirais une fois par semaine.
Et comment vous vous sentez quand c'est fait?
Quand c'est fait, je me sens mieux.
Ça vous apaise?
Oui.
Et quand vous voyez votre thérapeute, vous travaillez sur quoi? Parce qu'on a commencé à aborder pas mal de sujets. Est-ce que cet enfant vous en est tout par rapport à ça, par exemple?
Le deuil de l'enfant?
Oui.
Je sais que je vais mourir un jour, comme tout le monde, et il n'y aura personne pour... Je suis entourée j'ai trois sœurs qui ont toutes des enfants. Mmh. Moi, je vois que je serai toute seule, il n'y aura personne pour aller fleurir ma tombe.
Est-ce que vos sœurs ont des enfants, des enfants qui sont proches de vous? C'est ça que je voudrais savoir.
Oui, relativement. Vous savez, c'est des ados, ils font leur vie...
Ce sont vos neveux et nièces, quand même.
Oui, mais je les aime et ils m'aiment.
Bon, ça, c'est déjà quelque chose d'important.
Oui.
Même si, effectivement, la période de l'adolescence, c'est pas la meilleure pour avoir des câlins en tant que tata. Ouais, mais ça reviendra, ouais. Ça reviendra. Vous savez qu'ils reviendront aussi vers vous quand ils auront des enfants et qu'il y aura, quand même un lien et une famille autour de vous.
Ouais.
C'est important, ça.
Ouais, mais ne pas avoir son propre enfant. En plus, moi, j'en voulais un à 20 ans, un bébé. Je devais en avoir un à 20 ans. Bon, bah, ça s'est passé. Et...
Oui. Et votre papa, et voilà. Alors, votre papa est parti il y a combien de temps ?
En 2011.
Et est-ce que ce deuil-là est fait ?
Je pense, parce que j'étais incapable de rentrer chez moi, je vis seule, et je suis restée un an chez ma mère, et je restais allongée, on ne pouvait rien me demander. J'étais déjà avec les traitements, parce que je reprenais un suivi, j'étais sortie de l'hôpital, de l'hôpital psy, où j'étais restée un mois et demi, je sortais avec un traitement très lourd. Je suis restée pendant un an après le décès de mon père chez ma mère. Je restais allongée sur son lit. Je regardais la télé sans la regarder. Je l'accompagnais une fois de temps en temps en course, ma mère, le matin. Mais on ne pouvait rien me demander. Je ne faisais rien. J'étais
hors service, quoi.
Complètement apathique. Ouais. Complètement, et après, au bout d'un an, ma mère en a eu marre. Elle m'a dit, il faut que tu rentres chez toi. Et puis après, j'ai été prise en charge par un SAVS. Et c'est là, c'est grâce à ma référente du SAVS, c'est elle qui m'a fait reprendre pied peu à peu avec le monde extérieur. Mmh.
Donc ça, aujourd'hui, ça va mieux. Vous êtes apaisée de ce côté-là.
Oui, oui. Donc je pense que le deuil de mon père, je l'ai fait pendant un an, en étant apathique, en... Même pas en pleurant, j'arrive pas à pleurer avec les traitements que j'ai, ça me rend...
Un peu amorphe.
Ben, ça me rend amorphe et puis ça m'empêche de pleurer. Ça, je suis triste, mais il m'en faut beaucoup pour pleurer.
Oui. Et alors, dans cette relation avec votre ex-mari, qu'est-ce qui fait qu'alors que vous êtes divorcée et qu'il vous a prévenu qu'il repartait dans son pays, qu'il avait a priori une femme? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, ce silence vous pèse ?
Bah parce que là, il est parti sans me prévenir et sans me dire qu'est-ce qu'il y avait. Il avait besoin de vacances, ça c'est sûr. Je lui avais dit, t'as besoin au moins de 5 semaines de congé. T'es à bout, il était déprimé, il n'était pas bien les derniers mois. Et je lui ai dit, pars en Algérie, va dans ta famille pour soigner ta dépression et pour reprendre des forces. Il est parti, mais un mois passe, 2 mois passent, plus de 2 mois et aucune nouvelle et rien. Et je suis allée voir à son appartement et il y a toujours, il est censé y vivre. C'est son appartement toujours.
En France ?
En France,
vous avez,
oui,
vous avez les clés de cet appartement ?
Non, non.
Non. Et vous pensez qu'il a vraiment rompu avec cette future, enfin je ne sais pas comment l'appeler, celle qu'il aurait dû épouser là-bas ?
Oui. Ça, oui. Oh, peut-être ça a pu reprendre. Hein. C'est fort possible qu'il se marie. Oui, moi je pense qu'il faut que je m'y attende.
Ou alors, est-ce qu'on peut envisager qu'on lui ait présenté quelqu'un d'autre et que peut-être cette femme-là a mis le haut là, parce qu'après tout, vous êtes son ex, quoi.
Ouais.
Ça
ouais.
peut paraître curieux pour une femme qui arrive dans l'histoire de se rendre compte que, le monsieur qu'elle va épouser passe son temps à appeler son ex. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui dit, écoute, c'est elle ou moi.
Ouais, tout à fait.
On parlait de ses parents tout à l'heure, mais peut-être que c'est juste une nouvelle femme dans sa vie qui lui dit, écoute, j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie que tu sois en contact avec elle tout le temps, c'est pas normal.
Oui, parce que La première femme que sa mère lui avait présentée, il lui avait parlé de moi en plus au téléphone. Alors, il lui avait dit qu'il était toujours en contact avec son ex-femme. Et elle lui avait dit, je veux pas que tu aies une autre femme dans ta vie.
Et oui, ça peut créer, vous pouvez comprendre aussi que ça peut créer de l'incompréhension, de la jalousie aussi. Surtout sans vous connaître. C'est une relation quand même un peu... presque fusionnel, qu'on dirait que vous avez tous les deux.
Oui.
Et oui, peut-être oui. que pour trouver sa place, une femme qui se serait arrivée derrière lui aurait dit « Écoute, maintenant, ça suffit, stop, quoi. » Et que pour pouvoir se donner cette chance de reconstruire sa vie, il a préféré couper court parce que c'est peut-être trop difficile. J'ai l'impression que dans cette relation que vous avez tous les deux, c'est un peu tout ou rien. Vous n'allez pas pouvoir être juste en relation une fois tous les 6 mois. Et en même temps, 3 fois par jour, c'était vraiment beaucoup. Donc du coup, c'est, vous savez, c'est comme arracher un sparadrap. Il a peut-être décidé de l'arracher d'un coup. Mais je comprends qu'il vous laisse dans l'incompréhension et dans le doute. Mais ça me, est-ce que ça vous paraît plausible, ce genre de scénario?
Ah oui, oui, ça me paraît plausible, hein, qu'il ait décidé d'arracher d'un coup le sparadrap, comme vous dites. Hein.
Mais ça, vous n'allez pas pouvoir y faire grand-chose, Muriel.
Bah non.
La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à prendre vos distances par rapport à lui?
Bah parce que je suis dans le doute, je ne sais pas ce qu'il fait, je me demande est-ce qu'il n'a pas trouvé un autre travail là-bas, comment il fait pour payer son loyer et ses charges à Conflans.
Mais il est plus dans votre vie, Muriel, c'est votre ex-mari?
Oui, c'est mais pas, c'est ni vous votre voyez, vie. J'étais tellement dans sa vie que tout ça, ça me reste...
C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un deuil à faire hein, de ce côté-là.
C'est ce que ma sœur m'a dit. Elle m'a dit, Sabine, elle va t'expliquer comment faire ton deuil.
Non, mais il y a vraiment un deuil à faire parce qu'on sent que vous agissez comme s'il était encore là, comme s'il allait demain matin rentrer et dire, voilà, qu'est-ce qu'on mange, quoi.
Absolument.
Oui, c'est ça que j'entends, oui. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, je crois qu'il y a une partie de vous qui ne l'a pas encore admis. Je crois qu'intellectuellement, il me semble que vous avez bien compris que c'était fini, mais émotionnellement, il y a encore un truc qui est accroché, il y a encore un lien.
Oui, oui.
Et ce lien-là, il est presque d'ordre maternel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous vous inquiétez pour lui comme une maman s'inquiète pour lui.
Oui, c'est vrai.
Vous savez, j'ai rarement entendu une ex-femme, même quand ça se passe bien, dire « j'espère qu'il peut payer son loyer, j'espère qu'il a un nouveau travail, j'espère qu'il va bien ». C'est plus votre souci. Pardon d'être brutale, hein, mais au bout d'un moment, c'est pas votre problème, c'est le sien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ça vous inquiète autant. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à couper émotionnellement ce lien-là?
J'aimerais savoir s'il compte passer sa vie en Algérie ou revenir en France. Si je vais le revoir un jour, si...
Oui, mais Muriel, c'est
on
votre ex.
On se dit au revoir.
Ça changerait.
Il est parti comme ça.
Ça changerait
puis
quoi?
Vous savez, on avait toujours des relations intimes avec Ahmed.
Physiquement, vous voulez dire?
Comment?
Physiquement?
Oui.
Après le divorce?
Oui.
Ah oui, vous êtes vraiment un cas particulier. Alors, vous êtes des divorcés particuliers tous les deux.
Oui. Il n'avait pas refait sa vie, il n'avait pas refait sa vie. Moi, je ne veux pas refaire ma vie. Et pendant 13 ans, on est restés toujours l'un et l'autre très attachés.
C'est curieux, mais alors pourquoi vous avez divorcé? Pour cette histoire d'enfant? Parce que lui, il veut vraiment un enfant.
Oui, il veut vraiment un enfant. Il mérite d'être heureux, il mérite d'avoir une famille, d'avoir... Moi, je lui souhaite qu'il ait au moins un ou deux enfants.
Est-ce que vous avez l'impression de l'avoir libéré en demandant le divorce, justement, de lui avoir donné l'autorisation de construire ça ailleurs, puisque vous ne pouvez pas lui offrir?
Oui.
Donc, c'était un choix de votre part?
Oui.
Je comprends bien, je trouve ça très généreux, mais j'aurais tendance à vous dire, allez au bout du truc, allez au bout de ce choix-là, parce que si vous le libérez... Tout en vous disant, ah oui, mais s'il ne me donne pas de nouvelles, ça ne va pas, vous ne le libérez pas vraiment. Ça doit être difficile pour lui, parce que j'ai la sensation qu'il y a encore des sentiments, des liens de son côté aussi. En attendant, il y a une affection, au moins une tendresse entre vous. Et si lui vraiment doit reconstruire avec une autre femme, ça doit être excessivement difficile aussi.
Oui.
Et si vous avez pris cette décision de le libérer... En vous écoutant, j'ai un peu l'impression que vous faites un pas en avant et deux pas en arrière. C'est-à-dire, je divorce, mais je te remets dans mon lit. Je te laisse partir, mais je veux des nouvelles.
Oui.
Vous voyez ?
Mais c'est parce que aussi j'ai décidé qu'on allait divorcer parce que j'avais très peur qu'il décide lui de me laisser pour une autre femme pour avoir un enfant parce que je ne pouvais pas lui en donner. C'était pour ça aussi, par la peur qui me laisse du jour au lendemain. Je lui disais souvent, il ne voulait pas la FIV. Je lui disais, mais tu veux divorcer, Ahmed, tu veux... Et il coupait court, on n'arrivait pas à discuter. Je disais à sa sœur, mais tu crois que ton frère, il va vouloir divorcer? Sa sœur me disait, elle riait, elle me disait, mais pense pas à ça. Et voilà, quoi, moi, ça m'a bouffé.
Et vous l'avez provoqué de... Oui, mais oui.
Voilà, voilà.
Vous m'avez entendu parler des blessures émotionnelles de l'enfance, déjà?
C'est possible.
Vous savez, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Les blessures qu'on a vécues enfant et qui font qu'on a des manières de se comporter avec des schémas répétitifs. Et là, ce que vous avez fait, c'est typiquement la blessure d'abandon. C'est-à-dire quand on a été abandonné ou on s'est senti abandonné dans son enfance, et on a tellement peur de l'être à nouveau qu'on va le provoquer inconsciemment. J'ai tellement peur que l'autre me quitte et m'abandonne que finalement je vais me mettre dans une situation où il va me quitter, m'abandonner, parce que ça va conforter ce que je pensais. J'étais persuadée que ça allait se passer comme ça, et donc je me débrouille pour que ça se passe comme ça, même si ce n'est pas ce que je voulais. Vous comprenez ce que je veux dire?
Absolument.
C'est ce schéma-là, en fait, que vous avez rejoué. C'est ce schéma-là que vous avez rejoué, ouais.
Oui.
Et alors, comment c'était avant lui, vos histoires amoureuses?
Oh, bah, c'était compliqué. Je suis restée 7 ans avec un homme toxicomane aux drogues dures. Et il me disait le matin, lève-toi. À 6 heures, quand le réveil sonnait, il me disait, lève-toi, va travailler. Et lui, il restait... toute la journée à rien faire, à chercher sa dose. Enfin, c'était compliqué, c'était très dur. Mais je croyais toujours qu'il allait s'en sortir. Pourtant, quand je m'adressais à des professionnels, des psychologues, des services d'aide, on me disait, mais vous pouvez rien pour lui, c'est lui qui peut, vous pouvez rien. Et voilà, j'ai laissé 6-7 ans de ma vie...
Et là aussi, j'entends une autre blessure qui est la blessure d'humiliation. Quand on a été humilié d'une manière ou d'une autre dans l'enfance, on a ce besoin de s'occuper des autres tout le temps. Et j'ai l'impression que vous avez ce côté Mère Teresa un petit peu avec les hommes.
Oui, c'est vrai. Oui.
Ce besoin de vous occuper d'eux, de les protéger, de les materner. Et avant l'homme dont vous me parlez, c'était comment vos histoires d'amour, elles se sont chaînées sur des schémas répétitifs comme ça? Toujours avec des échecs au bout, avec des hommes qui ne vous apportaient pas ce que vous auriez voulu.
Avec des échecs, oui, qui ne m'apportaient pas ce que j'avais voulu, que des échecs.
Et vos parents, c'était un couple comment?
Un couple très uni.
Oui.
Un couple, ma maman qui était assistante maternelle et mon papa qui était cadre, qui s'occupait beaucoup de ses filles, l'école... Il allait aux réunions, ma maman qui s'occupait de nous, qui nous surprotégeait, nous couvait. Un couple très uni.
Donc plutôt une belle enfance.
Oui, une belle enfance.
Donc les blessures émotionnelles, elles ne viennent pas de ça, elles ne viennent pas des parents en tout cas, elles peuvent venir d'autre part. Est-ce
non,
que vous avez
ça vécu... peut...
Oui, dites-moi.
Ça peut venir de là aussi, parce que c'est par rapport à mes sœurs, il y a eu des soucis... J'ai une de mes sœurs, ma sœur aînée, qui était tombée amoureuse dans la cité où on vivait d'un jeune homme de 11 ans plus qu'elle. Elle avait 13 ans. Un jeune homme de 11 ans plus qu'elle qui avait fait de la prison. Et mes parents ne voulaient pas qu'ils soient ensemble. Ils faisaient tout. Et un matin, elle est partie à ma sœur. Elle avait pris des cachets. Et elle est tombée inconsciente. Et elle est restée une semaine. Elle ne reconnaissait plus personne. Mais elle réclamait son fiancé. Et son fiancé, mes parents ne savaient pas que c'était cet homme qui avait fait de la prison. Et ma mère pleurait tous les matins. Elle vomissait, elle pleurait. Elle était malade. Et moi, j'allais la voir dans la salle de bain. Elle était assise sur la baignoire. Et je ne voulais pas partir en cours. Je disais, maman, tu veux que je reste avec toi? Et ça me rendait malade parce que je savais que ma sœur voyait cet homme-là. Je le savais, mais c'était un secret. fallait pas le dire à mes parents. Et ma mère, après, ils l'ont su par la force des choses. Et ça a créé des problèmes dans la famille.
Ça a déséquilibré tout le monde. Muriel, oui, je dois marquer une nouvelle pause, si vous permettez.
Oui,
je vous récupère dans un tout petit instant.
Bien sûr.
Merci à vous, à tout de suite.
Oui.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Muriel. Ah, Muriel, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
J'ai eu peur de vous avoir perdu, c'est bon.
Non.
Oui, vous étiez en train de me dire que cet événement violent a déstabilisé toute la famille. Peut-être qu'effectivement, ça vient de là. Mais il serait intéressant pour vous de travailler en thérapie pour arriver à comprendre d'où vient ce besoin de vous occuper tout le temps des autres avant vous-même, j'ai l'impression. Et de vous mettre dans des situations amoureuses sans issue.
Oui, c'est ça. C'est ça. Tout à fait ça.
Il y a autre chose aussi. Tout à l'heure, vous me disiez, je ne veux pas refaire ma vie. Vous savez, j'aime pas cette expression, refaire sa vie. On refait rien du tout. On continue. Il n'y a rien à refaire. On peut pas remonter le temps. Il n'y a rien à refaire. On vit d'autres expériences avec d'autres gens et dans d'autres situations. Donc, je suis bien d'accord avec vous. On refait pas sa vie. Mais il me semble que vous avez encore l'âge où il peut se passer plein de choses. Vous êtes stabilisé sur le plan médical, ce qui est plutôt positif.
Oui.
Il faut vraiment que vous arriviez à vous libérer de ces attaches-là qui ne sont pas les bonnes, me semble-t-il. Parce que vous vous attachez à des choses, là en l'occurrence à un homme qui est votre ex-mari. Ni le présent ni le futur, c'est un ex-mari. Et qui probablement est en train de refaire sa vie, lui, avec une femme du présent.
Oui, probablement, oui, c'est presque sûr.
Et en vous accrochant ce lien, vous vous faites du mal.
Et vous pensez que si je travaille avec mon psychiatre, sur quoi déjà vous m'avez dit sur
déjà couper ce
le
lien.
Le fait de protéger, de vouloir protéger tout le temps quelqu'un autour de moi.
Savoir pourquoi vous vous comportez comme ça. D'où vient ce besoin de materner comme ça et de vous occuper tout le temps des autres. Je vous donne une petite piste avec la blessure d'humiliation. Cherchez avec votre thérapeute dans votre enfance quelle situation a pu vous humilier. Ou qu'est-ce qui a pu faire que vous n'avez pas assez d'estime pour vous, pour que vous ayez peut-être l'impression qu'il faut vous occuper tout le temps des autres comme ça. Parce que là, il va être temps de vous occuper
d'accord.
de vous aussi. C'est très bien de s'occuper des autres, mais pas au détriment de soi-même. Vous voyez, aujourd'hui, si ce monsieur, votre ex-mari, est parti et qu'il refait sa vie, c'est pas pour lui qu'il faut vous inquiéter, c'est pour vous. Qu'il ait de quoi payer, de quoi vivre, un métier, autre chose, une maison, c'est pas votre problème maintenant. Votre problème à vous, c'est de construire votre vie, votre avenir et votre bonheur. Et ça, c'est votre responsabilité aussi.
D'accord.
Prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres, Muriel.
D'accord. Hein? Vous savez, Sabine, je vous ai vu à la télé récemment.
Oui, il y a eu un reportage sur BFM, sur l'hypnose.
Oui.
C'est un bel outil, l'hypnose.
Oui.
Muriel, vous me promettez que vous allez prendre soin de vous ?
Oui, bien sûr. Hein? Mais vous de même. Je vous remercie, Sabine.
Merci de votre appel. Je vous embrasse.
Au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et avant d'accueillir Catherine, j'aimerais juste dédier une petite citation à Muriel. Le secret du changement de vie, c'est de concentrer toute notre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Bonsoir à vous, Catherine.
Bonsoir, Madame Marin. Vous appelez Sabine.
Appelez-moi Sabine, je vous en prie.
Oui. Bonne nuit déjà à Muriel.
D'accord.
Et puis, qu'est-ce que je voulais
Est-ce que vous pouvez juste parler un peu plus près du combiné ou un peu plus fort ? Je ne vous entends pas très très bien.
Oui. Bonne nuit à Muriel. Et puis, vous avez dit que vous avez déménagé, vous êtes dans un studio Coluche. Eh bien, mon sketch préféré, c'est l'autostoppeur, puisque j'ai fait pas mal de stops lorsque j'étais jeune.
Un des grands classiques de Coluche, oui.
Oui, l'autostoppeur, voilà.
En tout cas, je peux vous dire qu'on vous accueille tous ce soir dans un studio magnifique.
Ah oui, vous êtes où ? Je ne connais pas Paris, donc...
On est dans le 15e arrondissement, c'est dans le sud-ouest de Paris. Mais c'est surtout le studio qui est très très beau. Des jolies lumières, des écrans partout, c'est très agréable.
Il y a des quelles couleurs ?
Bleu, beaucoup de bleu.
Ah oui, bah oui, Robin, c'est bleu, les voitures.
Et oui.
Alors, j'en ai vu une voiture passer, puisque j'habite à Cholet en Maine-et-Loire, autour de France, et j'étais contente.
Alors dites-moi Catherine, pourquoi est-ce que vous m'appelez ce soir?
Oui, eh bien je vous appelle parce que je n'ai jamais de cadeau de ma famille. Je dis de ma famille parce que les amis, j'en ai pas. Les gens que je connais, c'est moi je fréquente beaucoup les PMU. Je suis turfiste depuis l'âge de 9-10 ans, alors... mais moi, je suis quelqu'un de généreuse et je ne reçois jamais de cadeaux. Alors, je ne sais pas pourquoi.
Attendez, racontez-moi un petit peu plus votre vie, Catherine. Quel âge avez-vous?
J'ai 61 ans.
Oui. Vous avez été mariée? Vous avez eu des enfants?
Non, non. Je suis célibataire sans enfants. La seule de la famille à être célibataire, 8e sur 9 enfants.
Vos parents ont eu 9 enfants?
Oui, je suis la 8e.
Vous êtes la 8e et tous les autres ont eu des enfants sauf vous, c'est ça?
Sauf moi, oui. Alors, évidemment, lorsqu'on n'a pas d'enfants, on est un peu laissé pour compte. Vous savez bien, c'est comme dans les entreprises, c'est comme partout. Mais on n'existe pas, quoi.
Vous n'avez pas de lien avec les enfants de vos frères et sœurs?
C'est-à-dire que moi, je leur ai toujours fait des cadeaux à la naissance, fiançailles, mariage et tout ça. Et puis, mais eux, je vois au premier de l'an tout ça, ils ne viennent jamais me voir, ils ne viennent jamais me voir, ils ne me souhaitent pas la bonne année. Ils me téléphonent que quand ils se marient, quelquefois je ne les ai pas vus pendant 5 ans, tout d'un coup je reçois un faire-part, ils se marient, allez hop, pour faire un cadeau. Moi je trouve qu'on vit dans un monde, c'est quand même bizarre, enfin.
Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils ne vous en font pas des cadeaux?
Comment?
Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils ne pensent pas vous faire des cadeaux? Pour quelle raison?
C'est quoi votre question? Pourquoi ils ne pensent pas me faire de cadeaux?
Oui, d'après vous.
Déjà, les neveux et nièces, ils ne vont pas me faire des cadeaux. Ils sont jeunes, mais enfin, les parents... Par exemple, j'ai un de mes frères, c'est mon parrain. J'ai une de mes sœurs, c'est ma marraine... Ils ne me font jamais de cadeaux. Moi, j'aurais fait des cadeaux à leurs enfants, à leurs petits-enfants, parce que on est 9 enfants, mais moi, j'ai peut-être 65 neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces. Alors, pour moi, c'est la ruine.
Oui, ça fait une grande famille, oui.
J'en ai marre de payer. Hein. Puis moi, je ne reçois jamais de cadeaux. Et je suis quelqu'un de généreuse. Je vois l'autre fois. J'habite à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Bon. L'autre fois, moi, je dis tout à l'antenne où j'habite, j'en ai rien à foutre. Les gens, ils écoutent ou ils n'écoutent pas, les auditeurs, les auditrices. L'autre fois, à Casino, là, je vais faire des courses, il y a une dame, elle n'avait pas assez d'argent. Elle mettait des articles de côté, je lui dis, madame, ne vous privez pas de manger. Et puis, je lui ai donné un billet de 5 euros. Elle me dit, c'était une personne étrangère, mais elle aurait été française, ça aurait été pareil. De toute façon, dans tous les pays, il y a des gens bien, toutes nationalités confondues. Mmh. Des gens bien, des Français pas bien, des étrangers bien, des étrangers pas bien.
On est bien d'accord, c'est ni une question de couleur de peau, ni de religion, ni de nationalité.
Bah oui,
c'est juste une question d'être humain, ça c'est vrai.
Bah oui, alors moi je lui donne 5 euros, puis elle me dit c'est beaucoup, je lui dis bah écoutez-moi. Il y a une fois, moi, dans une station essence, c'est vrai, j'avais pas assez d'argent dans mon porte-monnaie, puis la pompe à essence, elle a un peu débordé. Il me manquait donc 5 ou 10 centimes, et bien il y a quelqu'un qui a payé pour moi les 5 ou 10 centimes qui me manquaient, mais elle me dit c'est beaucoup, mais moi c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un de généreux. Une fois. Quelquefois, ça m'a... Tiens, l'autre fois, il y a 15 jours, je vais manger à Flinch, là. Il y avait un anniversaire, une petite fille, là, moins de 10 ans. Elle était juste à côté de ma table, il souhaitait son anniversaire. Ben, je la connais pas, mais je lui ai donné une pièce de 2 euros. Je ne l'ai pas embrassée. Si, j'étais lui faire une bille, je lui ai donné 2 euros. Mmh. Il y a 3 semaines, j'étais dans un autre restaurant à Cholet, à la pataterie. Il y avait un anniversaire. Encore une petite fille, moins de 10 ans, à côté de ma table. Eh ben moi, je lui ai donné une pièce de 2 euros. Je lui ai fait une bise.
Oui.
Alors, l'été dernier, là, je vois qu'il faisait vachement chaud avec la chaleur qu'on a eue. Je vois, ça m'arrive de voir des routiers, parce qu'à Cholet, on a l'usine Michelin, il y a des étrangers des fois. Ils vont à Carrefour acheter de la marchandise ou des bières ou ce qu'ils veulent pour leur camion, pour leur route, c'est normal. Le week-end, ils n'ont pas le droit de mettre leur camion sur le parking de Carrefour. Mmh. Donc, c'est un peu loin. Et en plus, je vois bien qu'ils marchent sur le bas-côté. C'est assez dangereux. Mais enfin, moi, je m'arrête. Je dis, monsieur, je vous emmène. Et il y en a qui me parlent en n'importe quelle langue. Je comprends. Je dis, je connais Cholet, je suis choletaise. Mmh. Je les emmène à leur camion. Voilà.
Catherine, ce que j'entends, c'est que vous êtes quelqu'un de généreux. Et ça m'inspire une idée. Une idée que j'aimerais partager avec vous et avec les auditeurs d'Europe 1. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps dans un magazine, une femme qui écrivait ça, et je trouve que c'est une excellente idée. Avant les fêtes de Noël, c'est de préparer un calendrier de l'Avent à l'envers. Alors qu'est-ce que c'est un calendrier de l'Avent à l'envers? Eh bien simplement, vous prenez un panier et chaque jour, entre le 1er et le 24 décembre, vous mettez dedans un petit quelque chose qui pourrait servir à quelqu'un dans le besoin. Ça peut être un savon, ça peut être un petit vêtement, une écharpe, ça peut être un produit de soins, d'entretien, des choses comme ça. Vous en mettez 24, chaque jour un. Et le 24, vous allez donner ça à quelqu'un qui en a vraiment besoin.
Mais ils sont petits, hein, les calendriers de l'Avent. Il n'y a pas beaucoup. Ils sont petits, les cadres.
Catherine, vous ne m'avez pas écouté. C'est un panier que vous prenez. C'est un calendrier à l'envers. C'est-à-dire vous prenez un panier ou un contenant, un sac, panier. Un carton. D'accord. Et chaque jour, vous mettez vous quelque chose dedans. Et le 24, vous avez 24 petits objets, petites choses qui peuvent servir peut-être à un SDF ou quelqu'un qui est dans le besoin. Et vous allez lui offrir. J'ai trouvé que cette idée était très jolie. Et puisque vous êtes quelqu'un de généreux, ça me paraît très intéressant de la mettre en pratique.
Je suis quelqu'un de généreuse, mais en même temps, je ne suis pas très fortunée, hein, quand même.
Mais c'est des petites choses, vous savez. Vous mettez un petit savon, une petite bougie, un gant de toilette, un échantillon de parfum, n'importe quoi qui peut servir à quelqu'un, ne serait-ce que le geste.
Oui, c'est vrai.
Je trouve que c'est une très jolie idée, ce calendrier de l'Avent à l'envers.
C'est vrai.
Hein, à suggérer aussi à tous ceux qui nous écoutent. C'est pas grand-chose, c'est un petit geste à faire avec nos enfants aussi. Ça peut être un dessin, ça peut être des tas de petites choses comme ça. Et le 24, on donne ça à quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans la rue, qui est tout seul.
Non, je connais quelqu'un qui est dans la rue. Là, je lui ai déjà donné quelque chose. Et puis.
Peut-être vous pourriez trouver une petite boîte, un petit carton, un petit panier et faire ce calendrier de l'Avent à l'envers.
D'accord.
D'accord, Catherine ?
Oui, d'accord.
Merci de votre appel, je vous embrasse.
Et moi de même, Sabine, au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, La Libre Antenne, Sabine Marin.
Encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin depuis ces magnifiques nouveaux studios situés à Paris dans le 15e arrondissement. Mais si notre adresse a changé, notre numéro de téléphone reste le même, 3921 si vous souhaitez passer à l'antenne. Amandine et Hassan sont là pour attendre vos appels, vous accueillir et vous guider jusqu'à moi. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec vous, Aïcha. Bonsoir Aïcha.
Allô ? Je suis contente. Allô ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Sabine, j'écoute l'émission depuis longtemps. Avant, il y avait Madame de Blanche, Sophie Peter, et vous.
Et Sophie est là la semaine et moi le week-end maintenant.
Oui, absolument. Je ne loupe vraiment pas. J'adore. Je mets mon petit poste en dessous de mon oreiller avec mes écouteurs et j'écoute tous les soirs.
C'est gentil. Je suis ravie de vous accueillir ce soir, d'autant plus que vous faites partie des toutes nouvelles qui inaugurent cette nouvelle adresse avec nous ce soir.
Oui, j'ai appelé auparavant, concernant ma fille, mais c'était notre histoire.
Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous m'appelez ce soir ?
J'ai perdu mon mari. Moi, je suis tunisienne. Mmh. Et j'étais mariée pendant 36 ans avec Pierre. Mmh. Il est parti. Et j'arrive pas à passer dessus ça.
Vous n'arrivez pas à faire le deuil ?
Oui, j'arrive c'est très dur. C'est très, très dur.
Alors, racontez-moi un petit peu. Il est parti il y a combien de temps?
Il y a eu un an, le 25 août, qui est passé.
Ouais, c'est encore tout récent. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Il a attrapé une pancréatite. Donc, c'est le cancer du pancréas.
Et entre le moment où ça a été diagnostiqué et le moment de son décès, il s'est passé combien de temps?
3 mois.
Oui, c'était très rapide.
Oui.
Comment est-ce que vous avez vécu ces 3 mois tous les deux?
Très dur, très dur. J'étais très fatiguée parce que quand il est rentré de l'hôpital, et il ne pouvait plus monter à l'étage parce qu'on a une maison et c'était à l'étage, donc il fallait mettre son lit en bas. Et il acceptait pas parce que mon mari, il était extraordinaire, très intelligent. c'est incroyable. J'ai une très très belle vie avec lui parce que moi je suis plus jeune que lui, hein, donc on avait 30 ans de différence d'âge, hein, avec mon mari.
Ah oui.
Ah oui.
Donc il est parti à quel âge?
90 ans.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Donc c'était quand même quelque chose d'envisageable.
Oui, mais ça paraît bête quand je parle avec mes collègues ou ils comprennent pas que je suis sûre que je m'attendais pas. Tout le monde il me dit bah écoute, il a bien vécu sa vie, il était.
Non, ça n'enlève absolument rien au chagrin, mais c'est vrai que c'est quelque part dans la logique des choses.
Oui, oui, c'est ce qu'ils me disent, mais moi je suis bête et j'arrive pas.
Oh non, dites pas ça, Aïcha, c'est pas une question de bêtise. Vous êtes juste en souffrance et en deuil, c'est normal.
Voilà. Et je voulais vous dire, Sabine, juste un petit truc quand vous dites, par exemple, des choses que vous dites, l'acceptation, ça j'aime bien, j'aimerais bien trouver, j'aimerais bien lire ces mots-là, parce que je trouve qu'ils sont, c'est magnifique, c'est très beau. Ben, mais j'ai oublié que c'était exactement, je crois qu'on a des phases hein, quand on perd quelqu'un.
Bien sûr, ça, j'en parle souvent, mais... J'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu déjà votre vie à deux. Vous l'avez rencontré comment, Pierre?
Alors, moi, j'ai rencontré mon mari en Tunisie.
Oui.
Je travaillais pour des coopérants français. Mon patron, c'était un colonel dans l'armée française. Il était là avec sa femme, ses enfants, ses petites filles. Et j'ai travaillé pour eux. Et mon mari est venu en vacances et il était ami avec eux. Et moi, j'étais à leur service, donc on a fait connaissance. Mais j'ai rencontré beaucoup de problèmes de la part de ma famille. J'étais battue. J'ai fait la grève de la faim quand ils ont su que j'allais me marier avec lui, que j'allais revenir partir en France. Donc, ce n'était pas question. Donc, mon frère, il a déchiré tous mes papiers, mon passeport, mon billet d'avion, ma carte d'identité, tous mes papiers pour m'empêcher de venir en France. Mais on a quand même, avec Pierre, il a été au consulat français à Tunis. Ils nous ont fait les papiers, on s'est mariés, j'ai eu un beau mariage, une robe blanche, une petite voilette, et on a été à l'hôtel et tout. Et
vous êtes battue pour réaliser ce rêve-là, en tout cas?
Absolument, on s'est battu. C'est plutôt mon mari qui s'est battu contre ma famille. Et on a réussi à avoir les papiers. Je suis rentrée avec mon mari en 82. Mmh. Et en 83, je suis tombée enceinte. Parce que j'ai une fille. Et là, les problèmes, ils ont commencé parce que ma belle-mère, la maman de mon mari, quand elle a su, elle m'a questionnée, elle m'a dit est-ce que j'étais mariée avec son fils? Et moi, je ne sais pas mentir, j'ai dit oui. Donc elle m'a dit, dans sa conversation, qu'elle était saisie. Donc elle a mis sa main comme ça, elle m'a dit je suis sciée, quoi, quelque chose comme
mais
ça.
Mais pardonnez-moi, Aïcha, mais elle avait quel âge, la maman de votre mari?
La maman de mon mari, à l'époque, c'était en 80. Elle avait 80. Entre 84 et 85 ans.
D'accord.
Parce qu'elle est décédée en 87 et elle avait dans les 88, 89 ans. Donc moi, elle me disait, il ne faut pas venir. Parce que moi, j'étais toute seule quand je suis arrivée ici. Même maintenant, je n'ai pas de famille à part ma fille. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc si vous voulez, quand j'allais un petit peu chez elle, j'apprenais un petit peu la couture parce que c'était très dur. Je suis arrivée dans les années 82 et c'est la première fois que je voyais la neige. Donc il y avait un mètre ou deux des neiges. J'habite à Lille, moi, dans le nord.
Et c'est un sacré changement. Hein.
Ah oui, donc j'ai attrapé des tas de choses de la peau, changement de climat, changement de nourriture. Et ils n'ont pas accepté, les enfants à mon mari. Et Sa maman, que je suis tombée enceinte.
Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il vous reprochait?
Ben, il reprochait qu'il ne fallait pas avoir un enfant avec Pierre parce que il n'y avait pas beaucoup d'héritage et que elle allait laisser la maison à ses petits-enfants parce que mon mari, il était marié avant. Et il a des enfants. Les enfants, on a presque le même âge, mais il avait un fils qui est décédé maintenant. Il était plus vieux que moi. Et je l'oublierai jamais, Sabine, parce que moi, je suis une bonne fille. Je suis pas instruite. Je suis un agent d'entretien, mais...
Oui, mais vous avez l'intelligence du cœur, Aïcha.
Oui, et j'étais très patiente. Et ils n'ont pas accepté mon enfant, donc je me suis... Pourtant, je sais rien faire. J'ai appris à lire et par la télé et les panneaux publicitaires quand mon mari roulait pour qu'on puisse aller faire des petits voyages comme ça quoi. Donc j'ai appris comme ça parce que j'ai pas été à l'école. Et quand elle a su ma belle-maman j'étais voir l'assistante sociale à la mairie et elle m'a dit, elle était très gentille, elle m'a dit écoute, prépare des petites choses. J'ai préparé des petites choses dans une petite valise et je suis partie parce que j'avais peur parce que son fils, il a dit à son papa en conversation, quand mon mari est rentré de son travail le soir, il faut la passer à l'aspirateur. Et ça m'a resté. J'ai bientôt 62 ans et ça n'a pas passé. Pourtant, je suis quelqu'un de... Je suis très croyante, mais je pratique pas. Mais j'arrive pas à oublier, j'arrive pas à pardonner ce qu'ils m'ont fait.
Attendez, que je comprenne bien, ça voulait dire quoi? Qu'ils voulaient vous faire avorter, c'est ça?
Oui, oui, ah, il fallait d'accord. Enlever l'enfant.
Enlever l'enfant.
Chez moi, ça, je ne sais pas si ça se fait ou pas, mais j'étais jeune, j'avais 23, 24 ans, j'avais très peur. Alors je disais à mon mari, c'est quoi l'aspirateur? Après, il m'a expliqué. Mais j'ai pas traîné beaucoup, excusez-moi, je suis partie... Elle m'a mis dans un foyer de jeunes mamans, de femmes, quoi, j'étais là. Et j'ai rien laissé à mon mari, je l'ai pas dit que j'étais partie parce que j'avais peur. Je voulais, elle m'a expliqué l'assistance sociale, qu'il faut que j'atteins les, comment on appelle ça, le temps pour que l'enfant qu'il me fasse pas avorter, si vous voulez, excusez-moi.
Que vous ayez dépassé la date limite.
Voilà, c'est ça, oui.
Qu'on puisse plus le faire, quoi.
Voilà, mais ça me peine, Sabine, ça me peine. Pourquoi ils ont fait comme ça? Pourquoi? J'ai jamais rien fait, moi. J'ai rencontré leur papa.
Des histoires d'argent, de jalousie, d'héritage, vous l'avez dit, hein. Voilà, malheureusement. Voilà, c'est... Voilà. Dans beaucoup de familles, c'est ça qui règne. Hein.
Oui, et ma belle-maman, elle prenait une feuille blanche, et elle prenait le crayon et elle dessinait un rond. Et elle me faisait montrer, ça c'est la part à Martine, ça c'est la part à Caroline, ça c'est la part à Pierre. Et ton enfant. Donc je suis partie, elle m'a incitée à reconnaître mon enfant. Mon bébé, il était dans mon ventre. Et j'ai dit à la mairie, aller à la mairie. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée.
Prenez le temps de respirer.
Et moi j'ai reconnu mon bébé. Et c'était une belle petite fille quand elle est venue au monde. Elle est magnifique, ma fille, elle a maintenant 35 ans.
Mais son papa, il l'a reconnue aussi?
Il l'a, au début, non.
Non.
Il l'a reconnu à 18 mois.
D'accord. Voilà. Il a finalement reconnu quand même.
Oui. Bon. Parce que moi, je suis quand même mariée, excusez-moi, je vais le dire, j'étais mariée vierge, jeune fille. J'ai jamais connu un homme avant mon mari. Et mon mari m'aimait, on s'aimait. Mmh. Mais c'était sa maman qui, moi, qui, vraiment, qui l'a remontée. Elle n'était pas contente qu'il a refait sa vie, en fin de compte. Et j'étais patiente et j'ai passé quand même 36 ans avec mon mari. En 6 mai, je vous ai dit, j'ai dit à Amandine que je ne l'ai quitté jamais. Quand je sors, même pour faire boire un café, pardon. Donc, il était tout le temps avec moi. Et moi, quand je rentre le soir du travail, il m'ouvrait le garage, il m'attendait, il venait chercher mon sac et tout. Tout ça qui... Et moi, je vais tout le temps au cimetière. Les enfants, je ne vous dis pas quand il est mort, donc il n'y avait qu'une seule fille qui est venue, mais elle est au cimetière, elle est venue même pas à la messe. Ma propre fille qu'on a eu ensemble, elle ne va même pas sur la tombe. Ils disent des horreurs incroyables, imaginables sur leur père. Et je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Maintenant que mon mari il est parti, il a fait une donation entre époux. Donc, si vous voulez, moi, je reste dans la maison.
Mmh. Il vous a protégé quand même.
Voilà. Ouais. Et ça me peine. J'ai dit, c'est son argent. C'est lui qui a travaillé plus et qui me laisse tout ça. Il m'a laissé la voiture, il m'a laissé l'autre maison.
Mais Aïcha, vous avez été sa femme pendant 36 ans?
Oui, mais ils ne veulent pas comprendre les enfants. Même ma propre fille, elle me dit que je n'ai pas travaillé. J'ai tout fait dans la maison, Sabine, tout. J'ai changé le carrelage, j'ai changé les volets, les fenêtres. J'ai acheté du mobilier.
Mais oui, vous avez été une femme, une mère et une maîtresse de maison pendant 36 ans? Ça a de la valeur, ça, Aïcha?
J'ai fait que ça. Et je regrette énormément mon mari qui est parti même. Je sais qu'il était âgé, mais j'aurais tant aimé... Et j'aime pas qu'on dise des méchancetés, des choses moches comme ça sur leur père, c'est pas possible.
On sent qu'il y a beaucoup d'amour dans votre cœur pour lui, hein.
Ah oui, mon père, il me manque énormément.
Mais vous avez eu beaucoup de chance aussi de vivre cette histoire-là.
Oui.
Et oui. Je sais que c'est difficile.
C'est très dur, je me suis trouvée toute seule.
Personne ne vous a aidé, vous n'avez pas pu voir une thérapeute pour faire ce deuil?
J'étais voir l'assistante sociale, ouais. Et elle m'a fait tous les papiers. Je la remercie du fond du cœur. Et parce que moi, je n'ai pas été beaucoup à l'école, donc je ne sais pas écrire, mais enfin, je me débrouille un petit peu.
Mais sur le plan psychologique, est-ce que vous avez vu un psy?
Oui.
Quelqu'un qui vous a aidé à parler de ça pour ne pas être enfermé dans ce chagrin-là?
Quand j'étais voir la doctoresse, elle voulait m'hospitaliser, mais j'ai peur. J'ai dit, je ne suis pas folle, mais j'aurais voulu quelqu'un qui... Je veux parler, je veux que ça sorte un petit peu.
Bien sûr.
Mais j'ai peur d'être hospitalisée parce que je travaille. Et...
Vous savez, Aïcha, vous avez le droit d'aller mal. Donnez-vous, c'est ce que je dis souvent, donnez-vous le droit d'aller mal et le temps d'aller mieux.
Merci.
Si on vous hospitalise, ce n'est pas parce que vous êtes folle, c'est parce que vous êtes fatiguée et que vous avez du chagrin.
Oui.
Et peut-être vous avez besoin de repos et de voir une psy régulièrement. Et l'avantage quand on est hospitalisé, c'est qu'on peut consulter quelqu'un plus facilement. Vous avez des psys qui sont sur place et qui peuvent vous aider à parler, à sortir tout ça.
Ah oui, j'aimerais bien parce que j'ai beaucoup ces difficultés avec ma fille, qu'elle est partie à l'étranger, elle est revenue là, elle vit avec moi et depuis un an, elle me juge, elle fait mon procès tout le temps, elle me bouscule, elle est. C'est horrible et je ne sais pas, je dors et le matin, je dis mon Dieu, Seigneur. J'ai de la force. Pourtant, je suis une petite femme de rien du tout qui mesure 1m56 à tout casser. Et je me débrouille et je trouve que tout ce qui est difficile, le lendemain, je me lève, ça me paraît comme une montagne et tout compte fait, ça se résout et la vie est belle.
Et vous êtes étonnante, Aïcha, vraiment. Moi, je vous tire mon chapeau. Hein. Vous êtes touchante, vous êtes étonnante, vous êtes... Incroyable, pleine d'énergie, pleine de positivité. Oui. Mais j'aime pas vous savoir seule comme ça avec ce chagrin-là.
Ah oui.
Mais c'est normal, au bout d'un an, c'est encore logique, il y a tout cet amour-là. Et oui. vous avez le droit, ne vous culpabilisez surtout pas, vous avez le droit d'avoir ce chagrin-là. Bien sûr que vous avez le droit.
Je suis contente de l'entendre.
Bien sûr.
J'avais besoin il y a longtemps que je dis, il faut que j'appelle.
Simplement, ce qu'il faut... D'abord, ce serait vraiment important... Je ne sais pas si vous avez besoin d'être hospitalisé ou pas, mais que, en tout cas de voir quelqu'un, de voir une psychologue pour parler.
Oui.
Pour parler de ça, parce que tant que c'est à l'intérieur, ça fait mal.
Oui.
Laissez-vous pleurer tant que vous en avez besoin. Vous savez, souvent je dis que le cerveau, surtout chez nous, les femmes, c'est comme une grosse éponge.
Oui.
On absorbe, et à un moment donné, si on ne sort pas, on ne peut plus s'en servir.
Donc pleure énormément, je suis quelqu'un d'hypersensible.
Et ben, c'est qu'il faut que ça sorte, et c'est très bien
je
comme ça.
Je pleure énormément.
Ne vous culpabilisez pas pour ça non plus, vous avez le droit de pleurer.
Oui.
On sent qu'il y avait un amour sincère et beaucoup d'amour dans votre cœur pour votre mari.
Ah oui.
Et c'est logique qu'il y ait ce chagrin, mais il y a deux choses dans la vie. On peut se dire, je suis très triste parce qu'il est parti, mais je suis très reconnaissante à la vie de m'avoir permis de le rencontrer.
Absolument.
D'avoir vécu 36 années comme ça d'amour, de partage.
Oui.
Et c'est ça qu'il faut garder.
Oui.
Est-ce que vous avez fait des photos pendant ces années de mariage?
Ah oui, mais j'arrive pas à les mettre à la maison, Sabine.
Non, mais sans les mettre à la maison, vous pourriez faire un petit album, quelque chose, des collages, vous savez, des choses comme ça. Passer un moment chaque jour à vous consacrer à ça, à ce souvenir.
Oui, j'arrive pas à m'affronter à la photo.
Ah, c'est encore un peu tôt, peut-être.
Ça fait mal, ouais. J'arrive pas.
Mais quand vous pourrez, ça peut devenir quelque chose de doux. Une sorte de moment dédié juste à lui et à vous, avec en faisant des petits découpages, des collages, en faisant des albums photos de souvenirs avec des petits cœurs, des choses qui peuvent simplement être un moment de partage dans votre cœur entre lui et vous.
D'accord.
Ça peut, mais je comprends tout à fait que vous ne soyez pas prête maintenant. Ne forcez pas les choses. Mais si vous arrivez à trouver une thérapeute qui vous convient, une psychologue,
oui.
Parlez-en, prenez le temps. Vous savez, on dit que pour faire son deuil, il faut à peu près 2 ans. Dans la majorité du temps, des cas, c'est souvent comme ça.
Oui.
Et c'est complètement logique la première année d'avoir encore du chagrin. Et le chagrin s'atténue avec le temps.
Oui, j'ai perdu 7 kilos, vous savez, Sabine.
Bah oui, bien sûr, je comprends. Vous avez perdu l'appétit.
Non, j'ai plus. Mon estomac est mid-5, c'est enfermé. J'arrive pas à manger, donc c'est.
Et oui. Enfin. C'est un chemin, le deuil. C'est un chemin.
Oui. Dites-moi, Sabine, s'il vous plaît, quand on dit l'émission, elle passe en podcast. Moi, je comprends pas. C'est quoi?
Ça veut dire que vous allez sur le site d'Europe 1, europe1.fr.
D'accord.
Il y a une rubrique qui s'appelle podcast.
Oui.
P-O-D-C-A-S-T, podcast. Et là, vous cliquez sur l'émission que vous avez envie de réécouter. Vous avez toutes les émissions de Sophie et les miennes, avec une date à côté. Et simplement, vous cliquez dessus et ça vous permet soit d'enregistrer, soit de réécouter l'émission qui vous intéresse.
Merci beaucoup. Je cherche à comprendre c'est quoi.
Et Aïcha, j'aimerais, depuis que je vous entends, j'ai ressorti un texte.
Oui.
Si vous permettez, j'aimerais vous dédier ce texte-là.
Ah ben c'est gentil ça, bien sûr.
Alors restez en ligne et voilà, c'est pour vous et c'est pour tous les gens qui sont dans le deuil et dans la perte d'un être cher.
D'accord.
Ne reste pas là à pleurer devant ma tombe, je n'y suis pas, je n'y dors pas. Je suis le vent qui souffle dans les arbres, je suis le scintillement du diamant sur la neige, je suis la lumière du soleil sur le grand mur, je suis la douce pluie d'automne. Quand tu t'éveilles dans le calme du matin, je suis l'envol de ces oiseaux silencieux qui tournoient dans le ciel. Alors ne reste pas là à te lamenter devant ma tombe, je n'y suis pas, je ne suis pas mort. Pourquoi serais-je hors de ta vie simplement parce que je suis hors de ta vue? La mort, tu sais, ce n'est rien, je suis juste passé de l'autre côté, je suis moi et tu es toi. Quel que soit ce que nous étions l'un pour l'autre avant, nous le resterons toujours. Pour parler de moi, utilise le nom avec lequel tu m'as toujours appelé. Parle de moi simplement comme tu l'as toujours fait. Ne change pas de ton, ne prends pas un air grave et triste. Ris comme avant aux blagues qu'ensemble nous apprécions tant. Joue, souris, pense à moi, vis pour moi et avec moi. Laisse mon nom être le chant réconfortant qu'il a toujours été. Prononce-le avec simplicité et naturel, sans aucune marque de regret. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Tout est toujours pareil, elle continue, le fil n'est pas rompu. Qu'est-ce que la mort, sinon un passage ? Relativise et laisse couler toutes les agressions de la vie. Pense et parle toujours de moi autour de toi et tu verras, tout ira bien. Tu sais, je t'entends, je ne suis pas loin. Je suis là, juste de l'autre côté. Voilà, Aïcha.
Merci beaucoup, Sabine. C'est très, très beau. J'adore, merci.
C'est un texte que du fond du cœur, j'avais envie de vous offrir ce soir.
C'est très, très gentil. Et moi, je vous ai dit, hein, j'écoute tous les soirs, c'est mon petit plaisir à moi, mon petit biscuit comme ça. J'écoute, j'adore Europe 1, le matin aussi.
C'est gentil.
Ah bah, c'est la station, la radio que j'écoute.
Aïcha, j'espère avoir mis un peu de baume sur cette cicatrice, sur votre cœur. Faites-vous aider.
Oui, je vais le faire, Sabine, et promis, je rappellerai pour vous dire.
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds non plus, Aïcha, hein, vraiment.
Oh mon Dieu, si vous savez, tout le monde me marche sur les pieds parce que je suis trop gentille.
Eh bien, vous dites, il y a un mot de 4 lettres.
Oui.
S-T-O-P.
Oui, stop.
Hein? Vraiment.
Oui, d'accord.
D'accord, Aïcha.
D'accord.
Je vous serre dans mes bras très très fort, je vous embrasse.
Merci beaucoup, moi aussi, je vous embrasse.
Et je vous souhaite un joli chemin pour la suite.
Merci beaucoup de m'avoir accepté sur l'antenne. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Au revoir, Sabine. Au revoir.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Europe 1.
Et j'aimerais maintenant prendre quelques instants Isabelle à l'antenne. Isabelle, bonsoir.
Oui, voilà, bonsoir.
Vous avez appelé parce que vous aviez envie de conseiller Aïcha.
Oui, voilà, que je vous explique.
C'est gentil, expliquez-moi.
Je suis née en Algérie Et donc, j'aide aussi en France des personnes comme Aïcha, parce que j'ai justement aussi une petite Aïcha à Clermont, Ouria à Vichy, et je les aide dans leurs difficultés quand elles ne savent pas écrire et tout, et surtout leur donner des conseils. Parce que je travaille dans l'immobilier, mmh. et donc, vous voyez, surtout qu'elle ne s'alarme pas, elle est propriétaire, hein, bon, elle a une fille, mais quand elle décédera, ce sera sa fille qui aura la succession. Mais comme elle vit, si vous voulez, dans l'angoisse, je voulais la rassurer, surtout.
Oui, voilà. il faut voir avec elle s'il y a un usufruit, oui. s'il y a des choses comme ça qui ont été mises en place, effectivement, c'est
oui,
important.
Mais même, je pense qu'il a dû le faire, le monsieur. Mmh. Mais surtout, la tranquilliser, c'est moralement. Alors, quand elle n'ira pas bien, qu'elle m'appelle. Et après, moi j'habite Vichy, elle habite Lille. On peut, après, un jour, je peux l'inviter, venir passer des vacances à Vichy, voilà. Mais ne pas la laisser sur cette
route. C'est adorable, Isabelle. C'est adorable parce que Aïcha, elle est touchante.
Non, bien, en plus,
j'ai
je me mets à sa place.
Vraiment formidable.
Mais mettez-vous à sa place, vous rendez compte? Elle vient donc de Tunisie. Elle est rejetée par sa propre famille. Et ici, en France, c'est pareil, la famille de son mari. Mais mettez-vous à sa place personnellement. Mmh. Et ça, il ne faut pas la laisser sur la route, là, toute seule. Il faut vraiment, moi, je suis prête à l'aider, voilà, à tout niveau.
Merci moral. Beaucoup, Isabelle. On va bien évidemment lui transmettre vos coordonnées tout de suite.
Voilà.
C'est
voilà.
adorable.
Et alors, je vais quand même... je ne sais pas si je suis à l'antenne, mais
si.
Je pourrais aussi vous donner mon portable.
Non, surtout pas maintenant. Non.
Pas maintenant, d'accord.
Ne raccrochez pas. Je vais vous laisser. Je vous remercie mille fois de cette intervention. Voilà. Et je vous repasse Amandine qui va prendre votre téléphone hors antenne et le transmettre tout de suite à Aïcha.
D'accord.
Hein, merci de votre aide. Et je trouve que cette émission est formidable pour ça aussi, vous voyez.
Et oui, c'est ça. Et merci à vous aussi pour ce que vous faites.
Merci.
Voilà, merci. Merci beaucoup.
Au revoir, Isabelle. Ne raccrochez pas.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et oui, quand je vous dis que la Libre Antenne, c'est aussi une grande famille, voilà un bel exemple. Bonsoir, Luc.
Bonsoir.
Le premier homme de la soirée.
Oh.
Bienvenue sur cette Libre Antenne.
Désolé.
Ah bah non, surtout pas, ne soyez pas. Alors,
non, je vous remercie. Non, je vous remercie, mais j'étais très touché par notamment par l'appel d'Aïcha et puis de Muriel, surtout de Muriel. Mais l'empathie n'est pas une solution en soi.
Pourquoi ?
Parce que je pense que ça pose plus de problèmes que de bien-être.
Ah, ça sent le vécu. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Je suis un hypersensible et quelqu'un de très empathique. Mais le retour sur soi ne porte pas toujours
On récolte pas ce qu'on a semé, c'est ça que vous voulez dire.
Voilà, tout à fait. Je vous remercie d'avoir trouvé le sujet.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous est arrivé notamment ? Dans quel contexte ça a pu vous arriver, ça ?
Dans quel contexte ? Alors. J'ai deux contextes différents. Je suis parti en vacances en Catalogne. J'ai été séduit par une dame en Catalogne qui a priori m'a pris un petit peu pour une buse.
Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rendu compte de ça ? Vous avez pensé ça ?
Parce que je me suis fait un petit peu dépouiller.
Ah.
Bon, c'est pas grave. C'est que des euros. C'est pas. Tant pis. Je la verrai plus jamais. Et puis voilà, c'est tout. J'ai fait la connaissance d'une personne sur la Libre Antenne. Quand c'était Caroline Dublanche qui présentait l'émission. Donc on s'est vu trois fois en l'espace d'un an et demi.
Attendez, c'est elle la catalane ou c'est autre chose ?
Non, c'est,
ah, c'est une autre histoire.
Personne.
C'est une autre histoire, d'accord.
Non, c'est une autre histoire, oui, pardon.
Alors faites-moi point à la ligne, que je comprenne.
Pardon, je n'ai pas compris.
Dans ces cas-là, dites-moi point à la ligne que je comprenne que c'est une autre histoire.
Pardon, alors point à la ligne.
D'accord, merci. C'est plus clair.
Oui, donc j'ai connu une personne par la libre antenne avec Caroline Dublanche. On s'est vu trois, quatre fois en l'espace d'un an et demi. Et là, pour l'instant, je ne sais plus quoi penser. Elle me demande des chèques parce qu'elle a plus de téléphone portable, plus rien. Je ne sais plus. Elle me dit qu'elle va déménager à La Réunion parce que c'est son département d'origine. Mmh. Elle me dit que maintenant elle va partir dans une autre région en France. Je ne sais pas où. Je ne sais pas pour. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, mais. Je ne sais plus où j'en suis.
Oui, j'ai l'impression que je vous sens un peu perdu, mais vous l'avez vu trois fois, c'est ça?
Trois, quatre fois.
Oui, autant dire que vous ne la connaissez pas du tout.
On se connaît suffisamment.
Bah, suffisamment pour quoi? Pour lui donner de l'argent?
C'est là où j'hésite.
Et pourquoi est-ce que vous lui donneriez de l'argent?
Parce que c'est une personne qui est un petit peu dans le. Qui est dans le.
Dans quoi?
Je vais être très gras. Dans la mouise. Mmh. Elle a des problèmes d'argent. Et. C'est là que mon empathie prend sur moi, quoi.
Mais votre relation est de quel ordre? Vous êtes amoureux d'elle?
Oui, très.
Ah, et est-ce qu'elle l'est de vous?
Je ne sais plus.
Oui, vous ne savez plus si c'est l'intérêt, l'amour ou de l'intérêt.
Tout à fait.
Bah, j'aurais tendance à vous dire, Luc, que le simple fait de vous poser la question, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand il n'y a que de l'amour, on ne se pose même pas la question.
Non, mais à recevoir 15 textos par jour pour savoir si c'est... je ne sais plus si c'est du profondément relationnel ou si c'est purement factuel ou si c'est...
Qu'est-ce qu'elle vous dit dans ces textos?
J'ai plus de tes nouvelles, qu'est-ce que tu fais? T'es plus là. Je ne sais plus où me poser.
C'est-à-dire, c'est elle qui vous dit ça ou c'est vous qui me dites ça, là?
Non, c'est elle qui me dit ça.
Ah, je ne sais plus où me poser.
Non, c'est moi qui me dis je ne sais plus où me poser.
Ah, mais mettez des points à la ligne. J'ai avoir du mal à vous.
Je vais mettre des points à la ligne.
S'il vous plaît. Je vais avoir du mal à vous suivre.
Ouais, je suis peut-être pas très clair parce qu'il commence à être tard.
Je vous comprends.
Non, mais elle me dit oui, j'ai plus d'argent, j'ai plus de travail, il faut que je reprenne une formation. Point à la ligne.
Ok.
Donc, je ne sais plus où me poser et comment me positionner surtout. Parce que je lui ai proposé de venir habiter chez moi. On habite à 600 kilomètres. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident.
Bah, elle est prête à retourner à La Réunion. Vous croyez que c'est plus évident?
Je sais pas si La Réunion c'est le plus évident, parce que La Réunion c'est quand même pas. C'est quand même pas un département très très.
Non mais peu importe, ce que je veux dire c'est que si elle est prête à retourner là-bas parce qu'elle a des problèmes, donc si elle n'accepte pas de venir chez vous, c'est quand même qu'il y a un manque de sincérité dans ses sentiments, non?
Oui, mais il y a aussi un problème de sincérité avec ses, avec sa famille.
C'est-à-dire
Disons qu'elle a été virée de chez elle à 16 ans.
Oui.
Elle a été obligée de venir en métropole.
Mmh.
Et de se débrouiller toute seule alors qu'elle n'avait aucune instruction. Quoi.
Comment est-ce qu'elle a survécu?
Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Elle a fait de la garde de personnes âgées, de personnes comme ça.
Mmh.
Et sincèrement, c'est une personne très bien.
Oui.
Mais qui a passé toute sa jeunesse, on va dire comme ça, à soigner des petits vieux et faire de
auxiliaire de vie.
Assistante médicale, auxiliaire de vie,
mm-hmm.
si vous voulez. Mais là, elle a obtenu un diplôme, il faut qu'elle finisse sa formation. Mais pardon.
Non, on sent que ça vous êtes torturé entre deux émotions. Il y a une partie de vous qui a envie de lui tendre la main et de l'aider, et une partie de vous qui a peut-être l'impression de se faire un peu avoir dans l'histoire, non?
Me faire avoir, non, peut-être pas, parce que je suis quand même assez adulte. Mais j'ai envie de l'aider.
Mais j'entends un mais, trois petits points, donc j'attends ce qu'il y a derrière les trois petits points maintenant.
C'est le mais qui m'énerve. Je ne sais pas comment faire pour l'aider, quoi. C'est très bête.
Ça fait combien de temps que vous la connaissez?
Ça doit faire un an et demi, deux ans peut-être, je ne sais plus, je compte pas, je ne sais pas compter.
Vous lui avez déjà donné de l'argent?
Non.
Non.
Je lui ai fait des cadeaux, je lui ai envoyé des colis.
Mm-hmm.
Parce que son frigo, soi-disant, était vide. Enfin, soi-disant, je pense que c'était vrai.
Ce qui était étonnant, Luc, c'est que quand vous me parlez d'elle, vous avez commencé à me parler d'une autre histoire, avec une autre femme. Et vous avez tout de suite fait le lien, la comparaison avec une histoire où vous vous êtes fait avoir une première fois.
Comme non, si... c'est, ça, c'est, non, non, c'est, la dame de Figueras, c'était après elle.
Comment ça, après elle?
Non, j'ai connu... Je vais pas dire le prénom.
Celle que vous avez connue via l'antenne, c'était avant l'histoire de l'Espagne.
C'était avant celle de Catalogne.
D'accord. Donc vous n'êtes pas en relation avec elle, en fait.
Avec qui?
Avec celle que j'en sais rien. J'ai un doute là, du coup.
Mais j'ai plus personne en relation pour l'instant, donc.
Vous me perdez en route là, parce que quand vous avez rencontré cette femme en Espagne, vous n'étiez plus avec la première alors. Et aujourd'hui, vous me dites que vous êtes amoureux d'elle.
Oui, oui, mais ce n'est pas incohérent, a priori. Enfin, je sais même plus où j'en suis là.
J'avoue que je ne sais plus où vous en êtes non plus, même avec les trois petits points. Vous avez vraiment une relation avec elle, celle que vous avez reconnue sur l'antenne. Est-ce que vous avez été un couple?
En couple à 600 km,
couple. J'ai pas dit en couple, j'ai dit un couple. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des relations? Est-ce que vous avez été vraiment ensemble?
Le peu de fois où on s'est vu, oui.
Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle espérait, elle? Qu'est-ce qu'elle attendait?
Je pense qu'elle cherchait de l'amour.
Mmh.
du soutien et une épaule pour reposer sa tête.
Donc vous étiez en phase, puisque vous étiez amoureux, vous me dites.
Oui.
Mais ?
Trois petits points.
Alors, c'est là que j'arrive pas à comprendre votre histoire, c'est si vous en étiez là, qu'est-ce que vous êtes allé faire en Espagne ? Avec cette autre histoire ? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher ?
Non, j'étais en vacances, tranquillement à Barcelone Figueras. Il y a une fille qui m'a un petit peu escroqué. Et se passe ce qu'il peut se passer quand vous êtes un homme.
La chair est faible, c'est ça que vous me dites ?
Oui, la chair est faible.
Mmh.
Tout à fait. Mais je le regrette profondément.
D'accord. Est-ce qu'elle a su ça ? Non, vous ne lui en avez jamais parlé ?
Non.
D'accord. Donc vous revenez avec cette expérience-là, et là maintenant, vous vous rendez compte que les choses ne sont plus très claires avec elle ?
Les choses ne sont pas très claires, surtout.
Quand est-ce que vous lui avez parlé pour la dernière fois ?
Je ne pourrais pas vous dire.
Non, mais je veux dire, c'est quelques jours ou ça fait plus longtemps que ça ?
Non, mais ça se passe par SMS en ce moment, donc...
Même par SMS, c'était quand ? C'est récent ou ça fait longtemps ?
Le dernier SMS, c'était... c'était aujourd'hui.
Ah oui, donc d'accord, vous êtes en lien, en contact.
Oui, oui. Mais bon, son téléphone, soi-disant, a des problèmes. Mais... Voilà, donc... Oui.
Du coup, les messages...
Je vous écoute avec trois points de suspension.
les messages que vous recevez, c'est des messages pour prendre de vos nouvelles ou pour vous demander de l'argent pour un nouveau téléphone ? Ou les deux, mon capitaine ?
Les deux, mon capitaine.
Oui.
Non, mais c'est assez ambigu parce que des fois, c'est très virulent, des fois. Et d'autres fois, c'est très... c'est très gentil. Donc, je ne sais plus où
Alors,
me placer.
Je ne veux pas être désagréable, Luc, je ne veux pas la juger, je ne la connais pas. Mais quand on passe de choses virulentes à des choses douces, ça s'appelle de la manipulation.
Il me semble aussi.
Je n'ai pas beaucoup d'éléments avec ce que vous me racontez, mais de ce que j'entends là, ça ressemble à ça quand même, méfiez-vous.
Oui,
parce que je vais vous dire...
À 52 ans, j'ai appris à me méfier.
Il y a une citation que j'aime bien et qui vous colle à la peau, qui dit « Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. » Et vous avez commencé cette conversation me disant « J'ai trop d'empathie, je donne trop et je me fais avoir en retour. » Grosso modo, c'est ça que vous m'avez dit au départ.
Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Donc je vous dis, si vous ne changez rien, rien ne changera.
Je vais essayer de recadrer.
Oui, écoutez, vous me dites ça. Vous partez en Espagne, vous vous faites avoir par une femme.
Tout à fait.
Vous revenez, vous me dites, j'ai des doutes, mais il y a une partie de moi qui voudrait bien... donc une fois de plus, pourquoi pas ? Mais soyez conscient de ce que vous faites. Une fois de plus, nous sommes le résultat de nos décisions. Si vous prenez la décision de l'aider financièrement, ce que je ne comprends pas bien, c'est que c'est elle veut repartir à La Réunion ou alors ailleurs, c'est ça que vous m'avez dit ?
Dans une autre région.
Une autre région.
Ah, c'est ce qu'elle m'a dit.
Oui, bon.
Je n'en sais pas plus.
Est-ce que vous êtes entouré un peu, Luc ? Est-ce qu'il y a des gens, des amis autour de vous ?
Oui, il y en a quelques-uns. J'ai de la famille.
Est-ce que vous leur parlez de ça ?
Non.
Pourquoi ? Il n'y a pas un ami à qui vous vous confiez ?
Non, je ne me sens pas concerné. Enfin, je ne me sens pas capable de le faire.
Pour quelle raison ? Peur d'être jugé?
Non, c'est ma timidité, mon hypersensibilité peut-être. Je ne sais pas, je ne peux pas en parler.
Parce que c'est important quand même l'avis d'un ami qui vous connaît bien. Il y a peut-être un ami qui pourrait vous remettre la tête à l'endroit dans ces moments-là.
Peut-être. Là, je ne pourrais pas vous répondre.
Vous êtes timide même avec vos amis?
Oui.
D'accord. Peut-être vous pourriez franchir la barrière de cette timidité et vous confier à un ami en quel vous avez vraiment confiance dans son jugement, voyez? Quelqu'un qui vous connaît, qui vous aime et qui pourrait vous dire, ben voilà, fais attention à toi, quoi.
Autant je peux être très expansif, mais sur ma vie privée, je ne peux pas.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà vécu avec une femme?
J'ai été marié, j'ai eu une, deux, trois compagnes, ce qui est déjà assez...
Oui, redites-moi, 50, 52 ans, c'est ça?
52.
52, oui, ça fait 4 femmes en tout?
Oui.
Mm-hmm.
Bon, là, ça fait combien? Depuis 2009, ça fait 8 ans que j'ai plus personne.
D'accord. Pourquoi ça s'est terminé à chaque fois, vos histoires?
Pardon.
Point d'interrogation.
Non, c'est pas des points d'interrogation.
Non, c'est moi qui termine ma phrase avec le point d'interrogation.
Ah oui, mais je vous mets 3 points de suspension entre-temps. Parce que j'avais 2 enfants à l'époque qui vivaient avec moi. Donc avec avec mon épouse, on a divorcé pour X raisons. Avec ma première compagne, il y a eu des problèmes relationnels avec mes enfants.
Mmh.
Avec la deuxième aussi. Et avec la troisième aussi.
Oui. Vos enfants, vous les avez en garde partagée? Enfin, ils ont quel âge? Ils doivent être ados ou adultes, non?
Ah, maintenant, ils sont adultes, ils sont grands, ils sont majeurs et vaccinés.
D'accord, donc il n'y a plus de problème avec eux. Potentiellement, il n'y a plus d'histoire entre une éventuelle compagne et vos enfants. Si?
Si, parce que avec la dame que je connaissais qui habite à 600 km de chez moi, elle est venue pour Noël.
Mmh.
Et elle les a trouvés insupportables.
Ah.
Il y en a un qui... comment vous dire? Il y en a un qui se prend pour le dieu des dieux. C'est le plus grand.
Enfin, ça, vous pouvez les recadrer quand même, vos enfants. Ils ne vont pas vous empêcher d'avoir des relations avec une femme.
Non, mais lui, il est pas... le grand, il est parti.
Mm-hmm.
Et le cadet, a priori, aujourd'hui, il a déménagé de chez moi. Alors, je ne sais même pas où il est parti. On n'a aucune relation. Pourtant, il vivait chez moi jusqu'à ce soir. Et je ne sais même plus où il est.
Ah.
Il a déménagé toutes ses affaires. Je ne sais plus où il est.
Vous n'êtes plus en lien avec sa mère?
Absolument pas.
Ah, d'accord.
Ah non, c'était un divorce à l'arrache, donc...
Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, vous, Luc? Qu'est-ce que vous aimeriez?
J'aimerais retrouver ma chérie de 600 km.
D'accord, donc vous avez vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui se construise avec elle?
J'espère qu'elle viendra ici. Quitte à ce qu'elle s'installe un lit dans la pièce d'à côté. mais qu'on se voit tous les jours, parce que 600 kilomètres, c'est pas possible, quoi.
Est-ce que vous lui avez dit ça?
Je lui ai fait comprendre, et je sais pas si elle a compris.
Bah, il suffit de le dire clairement. Que vous me le dites à moi, c'est bien, mais c'est peut-être elle qui a besoin de l'entendre.
Peut-être.
Si c'est ça dont vous avez envie,
certainement,
et que vous pensez qu'il y a vraiment des sentiments dans cette histoire-là, dites-le-lui. Restez vigilant, mais dites-le-lui. Ça me paraît important.
Oui, madame.
Point d'exclamation. Dites. Et vous savez, quelquefois dans la vie, on a l'impression que l'autre comprend les sous-entendus, les petites choses comme ça, mais pas forcément. Souvent, on dit ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Alors dites-le-lui simplement. Vous savez, à un moment donné, il faut arrêter de tourner autour du pot. Soit les choses sont simples et sincères et elle a envie de vous rejoindre et de construire quelque chose. Soit elle est uniquement intéressée et dans ces cas-là, ça va s'arrêter. Au moins, vous serez fixé. Mais vous ne pouvez pas rester, j'allais dire ça poliment, les fesses entre deux chaises parce que vous n'êtes pas confortable là.
Ah non, le cul entre deux chaises, non, c'est pas confortable.
C'est vous qui l'avez dit, pas moi. Mais c'est vrai. Non, vraiment, Luc, dites-lui les choses. À un moment donné, il faut faire simple. Il y a quelque chose entre nous, eh bien, viens, on tente une histoire. Surtout que si elle a besoin d'aide pour s'installer quelque part, vous lui ouvrez la porte de chez vous. Vous ne pouvez pas faire plus. Hein. Soit elle n'a pas envie de ça, ou elle n'est pas sincère, et dans ces cas-là, vous tournez la page et vous prenez soin de vous.
De faire.
Bah non, vous ne tournez pas la page pour l'instant, vous avez envie qu'il y ait quelque chose, donc parlez-en clairement avec elle.
C'est sûr que j'en ai envie, oui.
Alors dites-le lui, s'il vous plaît, dites-le lui.
Oui, je dirai ce qu'il dégonde.
Ça va me rester, ça. Luc, il va falloir que je vous laisse, notre émission se termine.
Je vois l'heure sur le du réveil.
Faites simple et dites les choses clairement, dites-lui à elle les choses clairement, d'accord?
Ok.
Je vous embrasse.
Bisous.
Bisous à vous. Et oui, notre émission se termine déjà. Merci à Muriel, merci à Catherine, merci à Aïcha, à Isabelle et à Luc d'être venus partager avec nous ces moments de vie. C'était la première dans ce studio nouveau, dans le 15e arrondissement. Merci à vous pour vos SMS. Merci beaucoup à Isabelle aussi qui a appelé pour proposer son aide à Aïcha. Merci à Fabrice qui est soulagé que tout ait bien fonctionné. Merci à tous ceux qui sont là ce soir autour de nous pour être sûr que tout va bien, que tout est bien branché. Et je vous quitte ce soir avec cette citation. Utilisez à bon escient, la compassion apporte autant à la personne qui la montre qu'à celle qui la reçoit. C'est signé Deepak Chopra. Je vous laisse donc méditer là-dessus. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous retrouve demain soir à partir de 23h sur Europe 1. D'ici là, bien sûr, nous restons en contact sur ma page Facebook, Sabine Marin. Et vous pouvez à tout moment continuer à appeler le 3921 et laisser un message sur notre répondeur. Passez une bonne nuit, à demain.